Fenêtre sur le monde vous conduit cette semaine au Haut-Karabakh, dans un conflit qui dure depuis déjà plusieurs jours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous allons, au cours de cette émission, tenter de vous expliquer la complexité de ce conflit. Il va falloir revenir aux sources historiques, parce qu'on ne comprend pas le conflit actuel si on n'a pas la vision historique, notamment au cours des 40 dernières années. Et puis, comme toujours en géopolitique, pour comprendre les choses, il faut aborder l'emboîtement des échelles. Et là aussi, le conflit au Haut-Karabakh ne peut pas se comprendre sans la perception des différents acteurs de la région, la Russie, l'Iran, la Turquie, et puis également la France, qui fait partie du groupe de Minsk. C'est donc ce que nous vous proposons dans cette émission, de vous expliquer un conflit qui est compliqué, qui n'est pas simple, qui évidemment, comme tous les conflits, fait une grande part à la subjectivité, à l'émotion. Nous allons essayer, au cours de cette émission, avec mes trois invités, de vous donner le maximum de clés possibles pour comprendre ce conflit. Mes trois invités sont Tigran Yegavian, Anna Pouvreau et Aurélien Denisot. Tigran Yegavian, qui est membre du comité de rédaction de Conflits, que vous retrouvez régulièrement dans les colonnes, également dans ses émissions, qui est notamment l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Arménie, la montagne sacrée ». Et puis nous avons en duplex Anna Pouvreau, journaliste spécialisée sur les questions de géopolitique, et Aurélien Denisot, qui est à Istanbul, qui est un chercheur en géopolitique. Ces trois auteurs ont d'ailleurs contribué au prochain numéro de Conflits, celui qui paraîtra début novembre, et dont le dossier est consacré à la Turquie. Cette émission est donc aussi une manière d'introduire ce dossier et d'essayer de vous expliquer ce qui se passe dans cette région. L'émission est enregistrée le 6 octobre 2020. C'est important parce qu'évidemment, les conflits évoluant, dans quelques jours, quelques semaines, il y a une partie de ce que nous dirons, ce que nous aurons dit aujourd'hui, qui sera un petit peu dépassé. Néanmoins, pour la partie historique, cela ne changera pas. Cette émission va être divisée en deux parties. Nous allons d'abord voir les aspects historiques et puis ensuite les aspects plus de politique actuelle. Alors justement, Tigran Yegavian, le Haut-Karabakh. Alors Haut-Karabakh, c'est le nom que donne l'Azerbaïdjan. Les Arméniens appellent cette région l'Artsar, donc deux noms différents pour une même région. C'est un conflit qui est compliqué parce qu'on a une imbrication de peuples et une imbrication de territoires, c'est-à-dire une enclave dans un pays qui est lui-même enclavé.
Alors déjà, il faut comprendre qu'on est dans une région qui s'appelle le Caucase. Caucase, la montagne des langues, hein, donc une vraie mosaïque ethno-confessionnelle, située aux confins des trois empires, aux confins de trois aires géopolitiques. L'ère russe au nord, l'iranien au sud et turc à l'ouest. Donc historiquement, le Caucase est sous influence russe hein, depuis le 18e, début 19e siècle. Et le Karabakh, donc on parle d'un territoire qui est à peu près grand comme le département de la Haute-Savoie, pour que vous ayez une idée en fait, de la superficie, est un des berceaux de l'Arménie historique, comme l'atteste son patrimoine religieux notamment. C'est une région montagneuse, une région réputée inaccessible par les envahisseurs et qui a toujours été marquée par un certain irrédentisme de la part de sa population autochtone arménienne qui a su résister aux invasions. Alors il y a une date clé à retenir, bon, bien sûr le génocide de 1915 qui a décimé les deux tiers de la population de l'Arménie ottomane, auquel des élites tatars, azéries avaient aussi participé. Mais une date à retenir, c'est 1921. Pourquoi ? Parce qu'on est au début, si vous voulez, de l'Union soviétique. À l'époque, Staline, commissaire aux nationalités, décide de détacher le Karabakh de l'Arménie, de le donner à l'Azerbaïdjan. Il le fait aussi au même titre pour une autre région qui est à côté. Il faut vraiment qu'on ait en tête hein, les cartes, qui s'appelle le Nakhitchevan, qui a été vidé de sa population arménienne et qui est aussi donné à l'Azerbaïdjan dans le cadre donc d'une politique suivant l'adage « divisé pour régner », mais aussi pour marquer une sorte de gage d'amitié à l'égard des peuples turco-musulmans de la région. Et je veux aussi parler de la Turquie kémaliste. C'est une manière de gagner l'amitié de la Turquie kémaliste. Donc, pendant l'époque soviétique, la question est mise sous cloche, puisque au nom de la fraternité, de l'amitié des peuples, les nationalismes sont maintenus, mais à la faveur de la perestroïka donc voulue par Gorbatchev, les nationalismes remontent à la surface. Et donc en 1988, la population arménienne du Haut-Karabakh, qui est une région autonome incorporée à l'Azerbaïdjan soviétique, décide, réclame, exige son rattachement, le rattachement à l'Arménie soviétique. La réponse ne se fait pas attendre. Les autorités azéries, donc soviétiques, donc réagissent très durement. Il y a des massacres d'Arméniens dans la ville de Songhai, dans la banlieue de Bakou. D'autres pogroms vont se poursuivre. Et donc, les Arméniens réagissent par l'autodéfense. L'autre phase, par la suite des événements, le Soviet suprême, donc encore l'autorité légale, refuse le rattachement du Karabakh à l'Arménie, donc le Karabakh se voit contraint, obligé de proclamer son indépendance. Mais son indépendance, il ne la fait pas directement à l'égard de Bakou, mais comme pose la constitution soviétique, le Karabakh se détermine indépendant vis-à-vis du pouvoir central de Moscou. C'est pour ça que lorsque les médias parlent de régions séparatistes, c'est assez inexact, puisque le Karabakh était indépendant quelques semaines avant que et l'Arménie et l'Azerbaïdjan proclament à leur tour leur indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique.
Alors, on a évoqué l'Arménie, il y a aussi l'Azerbaïdjan qui est un pays très intéressant à étudier. Je ne sais pas si Anna Pouvreau, vous avez des éléments à apporter par rapport à l'Azerbaïdjan, et notamment le fait que ce pays est dans l'ère d'influence turcophone.
Mais je voudrais surtout mentionner que ce conflit au Karabakh fait partie des conflits gelés qui fait partie de l'héritage empoisonné de la dislocation de l'Union soviétique, à l'instar en fait du conflit en Transnistrie, du conflit latent en Transnistrie et aussi le conflit latent en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Et donc
c'est-à-dire que ce sont des conflits qui trouvent leur origine dans la guerre froide, dans l'URSS, et qui ressurgissent, conflits gelés, mais qui, c'est comme un volcan, de temps en temps on a des éruptions plus ou moins violentes.
Voilà, donc ce sont ces républiques qui ont été nouvellement indépendantes, et au sein de ces républiques, des régions autonomes ou des entités sécessionnistes, donc qui ont créé cette espèce de déséquilibre géostratégique dans toute cette partie de la vaste eurasiatique.
Aurélien Denisot, quelle est pour la Turquie, parce qu'on va voir que la Turquie a un rôle important dans ce qui se passe actuellement, quelle est pour la Turquie l'importance du Caucase et notamment l'importance de l'Azerbaïdjan dans sa sphère d'influence?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, le Caucase est en fait aux confins de ces trois empires que sont la Russie, l'Iran et la Turquie. Et dans l'Azerbaïdjan, on avait un peu les trois dimensions. On a un régime autoritaire et séculier, un peu héritage soviétique. On a une religion qui est le chiisme majoritaire, donc plutôt proche de l'Iran. Et on a une dimension qui a finalement triomphé dans l'identité azerbaïdjanaise d'aujourd'hui, qui est la turcophonie. C'est un pays turcophone. Et l'indépendance de l'Azerbaïdjan a coïncidé avec le moment où la Turquie, c'était juste après l'époque Özal, la Turquie en fait était un peu déboussolée par la fin de la guerre froide et cherchait de nouveaux axes diplomatiques. Et à cette époque, dans les années 90, la turcophonie et la solidarité avec le monde turcique, l'idéologie pan-turquiste, sont devenus un vecteur de l'influence turque. Alors c'est une stratégie qui finalement n'a pas forcément très bien marché en Asie centrale. La Turquie n'a pas été aussi bien accueillie au Turkménistan, en Ouzbékistan, etc. qu'elle aurait pu s'y attendre. Mais c'est une stratégie qui marche beaucoup mieux en Azerbaïdjan, puisque les Turcs ont dès lors considéré qu'il existait une solidarité presque charnelle avec cet État. Il y a en Turquie d'ailleurs une espèce de petit dicton, un petit motto, qui dit « iki devlet tek millet », c'est-à-dire « deux États, une seule nation ». Les Turcs et l'Azerbaïdjan se considèrent comme faisant partie d'une seule et même nation. Et c'est cette dimension qui oriente la politique turque vis-à-vis de l'Azerbaïdjan depuis les années 90, en prenant en compte d'ailleurs le fait que ce n'est pas tellement l'AKP, le parti au pouvoir, qui a orienté cette dimension en direction de l'Azerbaïdjan historiquement, mais ce sont avant tout les partis nationalistes, qu'il s'agisse des nationalistes plutôt conservateurs du MEP, qui sont aujourd'hui alliés à Recep Tayyip Erdogan, ou qu'il s'agisse de nationalistes plus laïques au sein des rangs kémalistes orthodoxes.
Pourquoi est-ce que l'Azerbaïdjan a adhéré à ce mouvement turcophone, alors que les pays que vous avez évoqués en Asie orientale, eux, ne sont pas rentrés dans cette dimension-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à l'Azerbaïdjan ou c'est le fruit des circonstances et peut-être une volonté de se distinguer de Moscou.
Je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs qui sont intervenus. Il y a évidemment le conflit qui a eu lieu avec l'Arménie dès l'indépendance, en fait, et qui a poussé l'Azerbaïdjan à se tourner vers un protecteur particulier. Il y a une plus grande proximité culturelle, linguistique, géographique avec la Turquie que pour les autres pays d'Asie centrale. Il y a aussi évidemment cette proximité avec la Russie et l'Iran. L'Azerbaïdjan avait ce sentiment d'être entouré par deux États, un la Russie dont il cherchait à s'autonomiser et l'autre l'Iran dont il craignait en fait la... En fait, il y a une crainte réciproque entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. L'Iran craint que l'Azerbaïdjan attise le séparatisme azéri en son sein et l'Azerbaïdjan craint que l'Iran veuille lui imposer un modèle islamiste conservateur selon son propre modèle. Dans cette logique, l'Azerbaïdjan a cherché à se tourner vers la Turquie, avec laquelle il partage d'ailleurs une frontière, mais qui est en fait toute symbolique, puisque c'est 8 km à travers la province détachée du Nakhitchevan.
Oui, parce que l'Azerbaïdjan est un pays très particulier. Il a été indépendant une première fois entre 1918 et 1920, et c'était un des premiers pays à avoir proclamé notamment le droit de vote aux femmes, qui a été accordé dès 1919, alors qu'en France, par exemple, il n'a été donné qu'en 1944. Donc, on a un pays qui a longtemps été extrêmement moderne, notamment dans la région. Par exemple, l'indépendance a été proclamée en France en 1918. L'acte d'indépendance est rédigé en français, donc c'est un pays qui est aussi très francophile et qui dénote un petit peu dans cet ensemble musulman, même caucasien.
Oui, en effet, l'Azerbaïdjan est un État assez particulier. Il y a ses spécificités, État turcophone, chiite. Il y a en effet cette histoire que vous avez rappelée. Pour la petite anecdote, malgré leur admiration pour le régime kémaliste, les Azerbaïdjanais rectifient souvent quand on précise que, quand on parle de la Turquie, qui aurait été le premier pays musulman à donner le droit de vote aux femmes, en disant que non, l'Azerbaïdjan a été le premier État à le faire. Il y a cette spécificité azerbaïdjanaise en fait, qui rend le pays très difficile à mettre dans une case géopolitique particulière. On en parlera sûrement plus tard, mais par exemple, il y a aussi cette politique d'amitié et d'alliance avec Israël. Il y a cette volonté à la fois d'éviter de s'engager soit en faveur des États-Unis de façon trop marquée, comme l'a fait la Géorgie par exemple, de garder des bonnes relations avec la Russie. Il y a une espèce de tentative permanente d'équilibre chez l'Azerbaïdjan qui est cependant un marqueur qu'on retrouve très fort, qui est en fait ce nationalisme turquiste. Pour la petite histoire, il y a un certain nombre d'intellectuels azerbaïdjanais ou azéris qui étaient parmi les fondateurs des mouvements nationalistes panturquistes, en Turquie même.
Alors la Russie, justement, quelle est sa place dans la région? Est-ce qu'elle soutient un camp par rapport à l'autre? Elle fournit du matériel aux deux pays?
Alors, vous voyez bien, le conflit chaud, la période du Karabakh, on le rentre entre 1988 et 1994. Donc, il y a deux phases. La première phase, c'est les années qui précèdent la dislocation de l'URSS, où l'armée rouge soviétique soutient le camp, entre guillemets, loyaliste, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan soviétique. Mais une fois que les États accèdent à l'indépendance, les Russes essayent de garder une certaine équidistance vis-à-vis des belligérants. Pourquoi ils le font? C'est pour permettre patiemment de construire déjà leur influence, de maintenir une influence et de se positionner comme un médiateur incontournable. C'est pour ça que si l'Arménie est un allié stratégique de la Russie, puisque en vertu d'un traité d'assistance mutuelle de défense, c'est la frontière avec la Turquie et l'Arménie est gardée par des gardes-frontières russes. Il y a une base russe importante dans le nord de l'Arménie, la base numéro 102 à Gyumri. Et d'un autre côté, donc la Russie pourvoit l'armée arménienne en armement dernier cri. Toujours est-il que l'Arménie aussi est membre de l'OTAN russe, hein, la fameuse organisation de coopération de traité de sécurité, l'OCTS. Mais ce qui n'empêche pas la Russie de vendre aussi des armes à l'Azerbaïdjan, d'avoir une amitié avec l'Azerbaïdjan. Toujours est-il qu'à l'heure où je vous parle, il se prouve que depuis les affrontements qui ont eu lieu en juillet de cette année entre l'armée azerbaïdjanaise et l'armée arménienne le long de la frontière internationalement reconnue, il semblerait, il y a beaucoup que l'Azerbaïdjan déplace le curseur à fond sur Ankara, en témoigne une sorte de purge qui a lieu à Bakou au sein des cadres, des diplomates, des dirigeants plutôt pro-russes, plutôt marqués par le Kremlin. C'est le cas de l'ministre des Affaires étrangères azerbaïdjanais, Emir Mamedov, qui était quand même chef de la diplomatie azérie depuis 2004 et qui était lui-même un ancien haut fonctionnaire soviétique. Donc on a l'impression qu'il y a un vrai déséquilibre qui a lieu, un vrai bousculement, un vrai chamboulement qui a lieu à Bakou. Et ce qui donne à la Turquie une occasion rêvée de mettre un pied dans le Caucase dans le but de déstabiliser la Russie, de la pousser à ses retranchements en l'obligeant à soutenir l'Arménie, ce qu'elle n'a pas forcément envie de faire, et ce qui permettrait à la Turquie donc d'avoir un rôle à jouer, d'avoir une influence, mais aussi d'allumer un nouveau foyer de déstabilisation dans le Caucase. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs acteurs qui s'imbriquent dans cet échiquier caucasien.
Comment vous voyez la position russe dans les prochaines semaines? Est-ce que Moscou, d'après vous, va s'engager davantage dans ce conflit?
Traditionnellement, la Russie protège les Arméniens. Donc je pense qu'elle ne pourra pas échapper à son rôle de modérateur dans cette affaire. Et elle n'a pas intérêt à ce que le Caucase s'embrase à nouveau. Alors, le problème avec la Turquie, c'est qu'elle est travaillée, tout comme la Russie, par des courants eurasistes depuis quelques années. Et comme le mentionnait mon collègue, il y a aussi l'alliance, dite alliance populaire, entre le pouvoir turc et les ultranationalistes, des loups gris. Et donc tous ces éléments, ce courant eurasiste, en fait, qui travaille le pouvoir turc, crée en fait un phénomène de déstabilisation au Caucase et peut-être bientôt en Asie centrale. Donc comme ces régions sont dans la sphère d'influence de la Russie, elle ne pourra pas échapper à son rôle de modérateur et elle interviendra forcément. En tout cas, il faut l'espérer.
Qu'est-ce que veulent ces mouvements eurasistes? Ils veulent faire une grande Turquie, un califat islamique, ou est-ce que ce sont uniquement des agitateurs avec des rêves un peu romantiques mais sans réalisation politique concrète?
Alors je pense que c'est surtout civilisationnel et c'est un peu irrationnel aussi, c'est l'appel de la steppe. Et le rôle aussi et le sort des populations turcophones en Chine, des Ouïghours par exemple, crée aussi cet appel vers la steppe, cet appel en défense des peuples turcophones. Donc si vous voulez, la Turquie se positionne à la fois vis-à-vis du monde arabo-musulman, mais aussi vis-à-vis de l'Est. Et je pense que c'est un courant très, très profond et très puissant, mais qui s'applique aussi à la Russie. Parce que la Russie aussi, depuis près d'une décennie, est très attirée par cette nouvelle orientation civilisationnelle.
À vous écouter tous les trois, j'ai l'impression qu'on a un conflit assez classique entre deux pays, Arménie et Azerbaïdjan, sur un territoire, mais qui n'est qu'une bataille dans un conflit plus large, plus larvé, qui est cette grande bande eurasiatique, Caucase, Asie orientale, avec des empires turcs, Russie, Iran et Chine également, et que finalement c'est un élément parmi d'autres ou qui est aggravé par une situation qui est beaucoup plus large et plus complexe.
J'aimerais bien porter une petite nuance. En tout cas, quand vous dites que c'est un affrontement entre deux États, c'est inexact, puisque officiellement l'Arménie n'est pas en guerre contre l'Azerbaïdjan. C'est le Haut-Karabakh qui est l'État qui n'est pas reconnu, qui est une république qui, depuis donc une vingtaine d'années, construit son État, qui est soutenu par l'Arménie. Donc c'est pas noir et blanc. Je veux dire, l'Arménie elle-même n'est pas en état de guerre. Par contre, ce qu'il faut savoir au plan, on va dire, politique, c'est que depuis 1992, il existe un groupe de contact. Constitué par 11 États, tous membres de l'OSCE. Ce groupe de contact s'appelle le groupe de Minsk. Donc il est co-dirigé par trois puissances, la France, la Russie et les États-Unis. C'est même un forum multilatéral très rare où vous avez ces trois puissances qui peuvent se rencontrer et travailler ensemble pour apporter une solution pacifique au conflit. Donc depuis 1992 et depuis surtout le cessez-le-feu de 1994, qui s'est traduit par des victoires militaires arméniennes, puisque l'Arménie contrôle, si vous voulez, enfin les Arméniens plutôt, contrôlent la région historique du Karabakh et des territoires qui constituent une sorte de ceinture de sécurité. Et c'est ces territoires-là que les Azéris essayent de reprendre aujourd'hui. Donc ces territoires-là, ils sont pas encore dans un statut très, très bien défini. Et le travail du groupe de Minsk n'a pas abouti à des conclusions significatives, puisque même si les deux parties se sont entendues sur des principes de règlement pacifique, de statut spécial, les deux parties piétinent. Pourquoi ? Parce que chacun pense que le temps est avec eux. C'est-à-dire que les Karabartis, l'État de l'Artsar, pensent que le temps est avec eux. Les Azéris pensent que le temps est avec eux parce que depuis 1994, surtout à la faveur, on n'a pas parlé de la rente pétrolière. C'est un pays surarmé, un pays qui consacre un budget de la défense faramineux puisqu'il équivaut au seul budget du PIB de l'Arménie. Pour que vous ayez une idée du rapport de force, l'Azerbaïdjan est un pays qui est quand même trois fois plus peuplé que l'Arménie. Donc tout ça participe, si vous voulez, à une politique revancharde, une politique ultranationaliste de la part de l'Azerbaïdjan, qui permet aussi, vu qu'on parle d'un régime autoritaire qui verrouille toute liberté d'expression, un moyen aussi d'agiter le chiffon rouge de la haine contre les Arméniens pour pouvoir détourner les problèmes sociaux sur les Arméniens. Le fait est que l'Azerbaïdjan est un pays qu'on ne connaît pas très bien, c'est un pays qui n'est pas très bien, qui n'est pas ouvert aux journalistes. Donc on n'a pas connaissance des profondes inégalités sociales qui traversent ce pays. Vous avez la vitrine de Bakou, qui est une ville rutilante, qui tire donc qui est cette image de Dubaï sur la Caspienne que les Azerbaïdjanais essayent de vendre à l'international. Mais vous avez de profondes inégalités et tout ça fait que la guerre contre les Arméniens est un moyen d'acheter la paix sociale.
Alors, vous avez signalé le fait qu'ils ont un budget armement extrêmement important. Pour autant, on voit dans le conflit, qui déroule depuis bientôt une semaine, que l'armée azerbaïdjanaise piétine et n'arrive pas à occuper le Haut-Karabakh. Il y a une résistance de l'armée de l'Artsakh.
Alors déjà, ce n'est pas l'armée azerbaïdjanaise toute seule, puisqu'il y a aussi l'armée turque, et là c'est quand même un fait notable, il faut le dire, puisque ce conflit qui est en train de se dérouler à l'heure où je vous parle est vraiment pris un précédent, puisque c'est la première fois que l'armée turque est à ce point engagée dans les hostilités. Dans les années 90, le soutien logistique, moral, politique de la Turquie se limitait donc à du conseil, à un effort diplomatique, ou alors, mais ce n'était pas aussi marqué qu'aujourd'hui. Là, on voit bien l'implication turque. Les Azéris ont du mal à cacher cette implication. Lorsqu'on voit, par exemple, des officiers en uniforme de l'armée turque sur les comptes Twitter de certains hauts dirigeants azerbaïdjanais qui sont après effacés. Et puis, le fait est que pour la première fois, la Turquie importe des mercenaires qu'elle va recruter dans le nord de la Syrie, dans les territoires qu'elle contrôle, à Afrin notamment, mais aussi en Libye. On a pu constater des vols réguliers depuis la ville d'Aintep, de Gaziantep vers Istanbul et après vers l'Azerbaïdjan en passant par l'espace aérien géorgien. Donc il est difficile de tabler sur le nombre exact de ces mercenaires syriens islamistes. C'est à peu près un millier, voire deux milliers. Mais toujours est-il que si l'Azerbaïdjan importe des mercenaires via la Turquie, c'est que ça traduit deux soucis. Le premier, c'est qu'on a l'impression que les Azéris n'ont pas envie d'exposer trop leurs soldats, parce que trop de pertes sur le front seraient donc un danger, serait une menace pour la légitimité du pouvoir autocratique du clan Aliyev qui est au pouvoir depuis une trentaine d'années. Et puis pour la Turquie, importer des mercenaires en Azerbaïdjan, parce que justement on parlait du budget, on parlait de l'armée azérie qui est une armée vraiment très bien équipée par Israël, par les Américains, par les Turcs, par les Russes, c'est une manière aussi de créer un nouveau foyer de déstabilisation durable, de jouer les pyromanes en quelque sorte dans cette région du Caucase, ce qui inquiète extrêmement à la fois la Russie et l'Iran.
Aurélien Denisot, quelle est l'ambiance à Istanbul ? Qu'est-ce qu'on dit dans les journaux et comment est-ce que la population perçoit ce conflit ? Est-ce qu'il y a une adhésion ou est-ce qu'au contraire les gens sont plutôt réservés à l'égard de celui-ci et notamment de l'implication de la Turquie ?
Je dirais qu'il y a deux éléments, en fait, il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un soutien qui est en Turquie toujours très fort à la cause azerbaïdjanaise et qui est assez traditionnel, qui n'a pas varié depuis les années 90, mais il y a aussi, de ce que j'ai compris en échangeant avec les gens, non pas un désintérêt pour cette cause, mais elle passe quand même au deuxième plan aujourd'hui, à côté d'autres considérations qui sont des considérations économiques, les considérations politiques. Et il est intéressant de noter par ailleurs que le soutien qui se manifeste à l'Azerbaïdjan n'équivaut pas forcément à un soutien à Recep Tayyip Erdogan. Il y a une partie de la population turque qui considère même en fait que cette question azerbaïdjanaise aujourd'hui est plus ou moins un démenti en fait à la politique suivie par Recep Tayyip Erdogan dans les années passées, avec l'idée qu'en fait on redécouvre le soutien à l'Azerbaïdjan alors qu'on est allé soutenir les Palestiniens, qu'on est allé soutenir les populations arabes, qu'on n'avait pas besoin de ça. On est finalement Israël soutient lui-même l'Azerbaïdjan, donc la Turquie devrait coopérer avec au lieu de rester en bisbille avec les Israéliens. On encourage en fait une réconciliation avec l'Égypte aussi. Et c'est globalement, il y a en fait le sentiment, il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a les partisans du président Erdogan qui évidemment vont soutenir son action et qui vont dire qu'il a raison de s'engager pour l'Azerbaïdjan, etc. Et il y a une partie de la population qui va considérer que dans ce conflit, en fait, Erdogan est plus ou moins obligé de suivre l'opinion à la fois des nationalistes turcs, notamment le parti MHP, avec lequel il est allié et dont il a besoin pour garder sa majorité absolue au Parlement, et d'autre part, des militaires avec lesquels il s'est considérablement rapproché depuis le coup d'État raté de 2016. Dans les dernières années, il y a eu un rapprochement avec l'institution militaire, et par exemple, alors on parlait du Caucase, mais juste avant la politique en Méditerranée orientale, la stratégie suivie par Recep Tayyip Erdogan était bien davantage inspirée par les militaires que par le corpus islamiste traditionnel. Et vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, on a un petit peu cette même impression aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a globalement un soutien en Turquie, un soutien traditionnel, mais un soutien qui n'est pas non plus exagéré parce que la population a quand même d'autres sources de préoccupation, mais aussi un soutien qui serait plus d'État à État qu'un soutien à un dirigeant dans sa politique.
Est-ce que la Turquie ne va pas s'épuiser en menant ces conflits aussi variés? Elle est présente en Libye, sur le front syrien, en Méditerranée orientale, maintenant l'Azerbaïdjan. Pour un pays qui en plus a des difficultés économiques, on a vu il y a quelques mois les problèmes sur la monnaie turque, est-ce que ce n'est pas une sorte de pyramide de Ponzi diplomatique qui risque de s'effondrer et d'emporter le gouvernement d'Erdogan avec elle?
C'est possible dans le sens où Recep Tayyip Erdogan joue aujourd'hui beaucoup, en l'absence d'amélioration économique pour le moment, il joue beaucoup sur la politique étrangère, en espérant en fait des succès ponctuels qui lui permettraient de redorer son image. Il avait obtenu plus ou moins une forme de succès en Libye, en réussissant à limiter finalement l'avancée des troupes de l'armée du maréchal Haftar. En Méditerranée orientale, ça a été beaucoup plus nuancé, il a été obligé de reculer. Aujourd'hui, dans le Caucase, le risque que prend la Turquie, c'est de s'isoler, avec aussi ce paradoxe que finalement l'Azerbaïdjan a choisi, à mon avis, un moment. L'Azerbaïdjan a son propre agenda également. Tigran Gnaegavian a très bien précisé, hein, il y a eu ce remaniement ministériel au cours de l'été. Il y a aussi une dynamique interne à l'Azerbaïdjan. Et je pense que l'Azerbaïdjan sait qu'en ce moment, la Turquie ne peut pas se permettre de perdre son propre soutien. Et je pense qu'il y a aussi cet élément qui a joué.
J'aimerais compléter la réponse d'Aurélie Denisot en parlant de la politique erratique du président Erdogan, qui, comme on le voit depuis à peu près 2014-2015, est engagé dans une fuite en avant. Une fuite en avant pour à la fois consolider sa base, puisqu'il avait essayé le dialogue avec les Kurdes et ça n'avait pas marché, comme on se rappelle donc de les guérillas urbaines dans les années 2012-2013 au Kurdistan turc. Et donc, cette fuite en avant, elle se traduit par la conscience qu'il ne pourra survivre, se maintenir donc dans son poste que par les crises, que à travers des crises. Donc c'est quelque chose qui est devenu structurel, c'est-à-dire qu'il a besoin de crises géopolitiques externes, il a besoin de pour consolider à la fois sa base en interne et aussi un peu comme les Azéris qui sont dans une position, le pouvoir azéri qui est dans une position de plus en plus fragile du fait de l'épuisement annoncé des réserves prouvées de pétrole, puisque l'Azerbaïdjan n'a plus, si vous voulez, de nouvelles réserves, elle vit sur ses sur ses fonds, sur sa rente. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération si on se fait de la si on fait de la prospective. En Turquie, comme ça a été souligné, comme vous l'avez rappelé, il y a une vraie crise économique sociale, il y a un vrai effondrement, si vous voulez, de la livre turque vis-à-vis des devises fortes. Et donc pour Erdogan, c'est aussi une manière à la fois d'acheter la paix sociale, mais aussi de, par cette force de nuisance, par l'exportation, le nouveau foyer de déstabilisation, c'est une manière de se maintenir et de pouvoir, et ça s'inscrit dans la tradition diplomatique ottomane, de pouvoir être en mesure de négocier en position de faiblesse, en déstabilisant ou en divisant des zones. Alors là, on a vu pour la Libye, hein, la Turquie a mis pied en Libye. Est-ce qu'elle a les moyens de se maintenir? Est-ce qu'elle a les moyens d'éteindre l'incendie qu'elle a allumé? Je ne suis pas convaincu. Mais toujours est-il que la Turquie a une politique à 180 degrés, qu'on pourrait qualifier de néo-ottomanisme, mais c'est inexact, parce que ça dépend de l'opportunité, n'est-ce pas? Mais la Turquie est parfaitement capable d'allumer un nouveau foyer de tension dans les Balkans, que ce soit en Macédoine du Nord ou au Kosovo. Et ça aussi, c'est une menace que, je crois, l'Union européenne ne prend pas assez au sérieux. En témoigne la position plus que timorée de la chancelière allemande Angela Merkel.
Alors, on va revenir justement sur l'Union européenne et puis un autre pays qu'on a évoqué, on va évoquer sa politique qui est Israël. Vous l'avez dit, tous les deux, il y a une union traditionnelle, enfin une bonne entente entre la Turquie et Israël.
Non, Azerbaïdjan.
Et Azerbaïdjan et Israël, pardon. Et effectivement, une partie de l'armement, des conseillers militaires sont d'origine israélienne.
Alors, Israël est l'un des premiers pays à avoir reconnu l'indépendance d'Azerbaïdjan juste après la Turquie. Pourquoi elle l'a fait? Parce qu'Israël, dans le cadre de sa politique de diplomatie périphérique, a intérêt à nouer des partenariats, des alliances stratégiques avec des États qui sont en difficulté, qui ont des tensions avec ses ennemis. On l'a vu dans l'histoire de l'État d'Israël. Israël avait noué des relations très étroites à l'époque du Shah d'Iran. Elle est très proche des Kurdes irakiens qui lui fournissent son pétrole. À l'époque aussi, en Afrique, elle avait un partenariat avec l'Éthiopie. Donc l'entente entre un État majoritairement chiite et l'État hébreu n'est pas du tout surprenante. Et elle est cimentée par plusieurs paramètres. Vous avez la présence d'une communauté juive qui n'est pas si importante qu'on veut le faire croire, hein, parce qu'il n'y a pas plus que 10 000 juifs aujourd'hui à Bakou et dans la région du nord d'Azerbaïdjan. Mais bon, c'est exploité par les officines, par le pouvoir azerbaïdjanais comme un signe de tolérance et d'ouverture sur le monde. Toujours est-il que la relation entre Israël et l'Azerbaïdjan est très opaque. Bien sûr, l'Azerbaïdjan importe à peu près 40%, disons un gros tiers de son gaz et de son pétrole à l'Azerbaïdjan, mais on parle moins de la coopération en termes de renseignement et en termes de guerre électronique et intelligence entre les deux pays qui visent directement l'Iran, puisque Israël considère l'Azerbaïdjan comme une base arrière par rapport à l'Iran. Et une vraie plateforme en fait pour déployer donc ces services. C'est aussi un endroit où on teste ses armes, hein, puisque l'Israël n'a jamais cessé de ravitailler l'armée azerbaïdjanaise en drones kamikazes et en d'autres types d'armements. Cela explique aussi pourquoi l'Iran est très inquiète de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce qu'elle se sent directement menacée par donc la présence d'Israël, qui n'est une présence qui, faut le dire, n'est pas très abordée, puisqu'en Israël il y a une sorte de blocage médiatique. On aborde très peu cette question. Toujours est-il que l'opinion publique israélienne est partagée sur ce partenariat. On a d'un côté l'État israélien qui continue à être en affaires et à nouer des partenaires stratégiques. N'oubliez pas que Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères israélien pendant de nombreuses années, est lui-même un juif de Moldavie qui connaît très bien ces pays de l'ex-Union soviétique et qui a joué aussi un rôle important dans le renforcement du partenariat entre Tel Aviv et Bakou.
Anna Pouvreau, par rapport à Israël et les liens aussi entre la Turquie et Israël.
Alors, oui, les liens qui se sont bien détériorés au fil de la dernière décennie. En fait, la Turquie soutient le Hamas. Et ça, c'est un point de friction très important entre Israël et la Turquie. Et je voudrais également mentionner que l'Arménie, apparemment, aurait ouvert une ambassade à Tel Aviv le 17 septembre. Et 15 jours plus tard, l'ambassadeur arménien en Israël a été rappelé à Yerevan en raison justement de la survenue du conflit au Nagorno-Karabakh. Et je pense que c'est la coopération dans le domaine des équipements de défense entre Israël et l'Azerbaïdjan qui pose réellement problème aux autorités arméniennes. Donc je pense que c'est un élément à prendre en considération. Alors par ailleurs, Israël a proposé de manière à adoucir un peu les relations avec l'Arménie, une aide humanitaire au profit des populations civiles du Nagorno-Karabakh dans ce conflit. Et je pense qu'Israël pourrait jouer un rôle de modérateur dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faudrait déhystériser le conflit qui est sur la voie de l'escalade. Et comme le prévoyait en fait le spécialiste des relations internationales français Dominique Moisy il y a quelques années, il prévoyait à l'horizon 2025 une israélisation du monde avec la survenue de plus en plus fréquente de conflits. Et en fait, il observait le déroulement des évolutions géostratégiques au niveau planétaire sous l'angle de la géopolitique des émotions. Et il pensait qu'il fallait substituer en fait le concept de clash d'émotions dans le domaine de la géopolitique à celui de clash des civilisations. Et je pense qu'il n'avait pas tort, parce qu'il lui-même et sa famille ayant fait, étant marqués par l'expérience du génocide, il considérait qu'il y avait trois émotions essentielles en fait dans le déroulement des évolutions géostratégiques, à savoir l'espoir, la peur et l'humiliation. Et c'est vrai que dans ce conflit qui est vraiment recentré là sur le petit territoire du Nagorno-Karabakh, qui en fait représente la moitié du territoire de la Corse et la moitié de la population de la Corse, si on se replace sous un angle national, donc dans ce petit territoire sont concentrées en fait ces problématiques liées aux émotions, c'est-à-dire l'humiliation, le fait d'avoir été discriminé par l'Azerbaïdjan, le spectre du génocide aussi qui continue de planer, puisque pour les autorités arméniennes, en fait, l'attitude de la Turquie dans ce conflit, c'est la continuation de velléités génocidaires qui date de 1915. Donc, vous voyez, tout cela est lié. Et je pense que la responsabilité des Occidentaux et de la Russie aussi dans cette affaire, ça serait de déhystériser le conflit. Là, on se place en fait sur un plan des émotions et sur un plan plutôt irrationnel.
Ah, c'est sûr qu'il faut s'inscrire en faux, comme le dit Anne Pouvreau, contre l'hypothèse, la thèse du choc des civilisations. Comme vous le voyez depuis toujours, l'Iran, qui elle-même est chiite, ne soutient pas l'Azerbaïdjan. Et pendant le conflit, la première phase du conflit dans les années 90, a été plutôt affiché une neutralité plutôt bienveillante à l'égard de l'Arménie. Toujours est-il qu'il faut, dans cette émission, dans cette discussion, revenir aux fondamentaux. Quand on parle de la question du Karabakh, il ne faut pas se cantonner au territoire. Le Karabakh, c'est avant tout un peuple. C'est un peuple karabartier, autochtone, arménien, qui n'aspire qu'à une chose, c'est vivre en paix sur sa terre historique. Donc, la question du Karabakh, c'est donc la question du peuple arménien du Karabakh. Or, il se trouve que depuis 1994, ce peuple, on lui refuse, si vous voulez, le droit à l'existence, puisque le principe de l'intégrité territoriale tend à prendre le dessus sur le principe de l'autodétermination. Donc il faut réfléchir un petit peu au concept de ce qu'est, quelle est la limite de l'intégrité territoriale. La limite, l'intégrité territoriale, qui est ce principe que défend bec et ongle Bakou, et en général s'applique à une menace extérieure, pas une menace intérieure. Et le fait est que pour les Arméniens du Karabakh, ce conflit n'est pas une question de conquête, mais une question de survie, une question existentielle. En 1988, le prix Nobel russe Andrei Sakharov a eu cette phrase assez, je trouve, assez significative. Il disait « Pour les Azéris, ce conflit, c'est une question d'orgueil national, alors que pour les Arméniens, c'est une question de survie. » C'est pour ça que sur le front, le moral est au plus beau. Le moral est au plus haut. C'est-à-dire que l'armée, les jeunes conscrits donc, qui se battent sur le front savent très bien qu'ils n'ont pas le choix sinon de gagner, sinon c'est un nouveau génocide ou une épuration ethnique qui va avoir lieu. Et ils ont le souvenir de ce que leur racontaient leurs parents, leurs grands-parents. Et aussi, j'ai parlé tout au début de cette émission, dans la partie historique du cas de l'enclave, ou de l'exclave pardon, du Nakhitchevan, hein, qui est frontalière de la Turquie, de l'Iran, de l'Arménie, qui elle-même était peuplée à peu près à 50% d'Arméniens au début des années 20. Mais cette région a été progressivement soumise à un nettoyage ethnique, puisqu'il restait 0% d'Arméniens déjà à l'époque soviétique. Donc pour le Karabakh, il est hors de question de connaître le sort du Nakhitchevan. Et enfin, et s'il faut réfléchir à un nouveau format de discussion, il faut prendre en considération la place et le rôle que doit jouer aussi l'État du Karabakh, qui certes n'est pas reconnu par la communauté internationale, mais qui s'est doté de tous les attributs d'un État, avec un ministère des Affaires étrangères, une diplomatie, à peu près une dizaine, vous avez déjà interviewé sur conflit son représentant. Donc une diplomatie, une politique, une économie aussi, même si bien entendu l'Arménie pourvoit en grande partie au budget de cet État. Et donc, revenir à la table des négociations est aussi un moyen d'accélérer le processus, puisque depuis 1998, l'Azerbaïdjan ne voulait pas du Karabakh à la table des négociations et demandait à l'Arménie de représenter le Karabakh.
Aurélien Denisot, est-ce qu'on voit bien les enjeux notamment de toute question nationale, et notamment d'indépendance, et on pense notamment à la question kurde, reconnaître le Haut-Karabakh pour la Turquie, enfin reconnaître le Haut-Karabakh indépendant pour la Turquie, est-ce que ça ne viendrait pas aussi au fait de devoir reconnaître le Kurdistan beaucoup plus étendu et beaucoup plus peuplé?
Il pourrait y avoir cet élément en prenant cependant en compte le fait que la Turquie elle-même n'est pas toujours cohérente sur la question. C'est-à-dire, par exemple, la Turquie a reconnu le Kosovo, contrairement d'ailleurs à l'Azerbaïdjan, qui entretient d'ailleurs des très bonnes relations avec la Serbie. La Turquie a reconnu l'indépendance du Kosovo. La Turquie, au nom de l'autodétermination des peuples et de la protection des populations turcophones, défend aujourd'hui, par exemple, l'autonomie de fait, et ce ne serait pas hostile à l'indépendance, du nord de Chypre. Donc c'est peut-être le problème qui va se poser dans la diplomatie turque, c'est comme on a cette diplomatie qui est un petit peu erratique, au coup par coup, les principes que défend la Turquie dans un pays, elle peut au contraire les combattre dans un autre. Et c'est là qu'elle risque de retrouver ses limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manque à la Turquie ce qu'elle avait peut-être davantage à la fin des années 2000, c'est-à-dire une espèce de cohérence dans sa politique étrangère. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que le soutien à l'Azerbaïdjan n'est pas tellement motivé par la crainte de l'effet d'exemple que ça pourrait avoir sur les populations kurdes. À la rigueur, ça aurait été plus le cas de l'intervention en Syrie ou de la rupture des relations avec le Kurdistan d'Irak, mais davantage en fait pour répondre au sentiment d'une population turque, en particulier la population nationaliste, qui est majoritairement attachée à l'Azerbaïdjan. J'entends par là qu'en réalité, si on se retrouvait un jour dans une situation inverse, si vous aviez, je ne sais pas, une population azerbaïdjanaise, enfin azérie, qui demandait son autonomie au sein de l'Arménie, la Turquie pourrait, à mon avis, le soutenir tout aussi allègrement. C'est peut-être la limite que va rencontrer la politique d'Ankara, c'est de soutenir dans certaines régions une politique qu'elle va combattre dans d'autres.
Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Je voudrais aborder la question de l'Europe, l'Union européenne, la France. Et membre du groupe de Minsk, co-président du groupe de Minsk, et on a l'impression que l'Europe est complètement absente, notamment l'Allemagne, et la France non plus, ne joue pas forcément le rôle qui pourrait être le sien dans la résolution de ce conflit.
Je remarque surtout que le président Macron est allé très loin. Si vous écoutez ses déclarations à Bruxelles, ailleurs, le président Macron a vraiment fait montre de sa profonde inquiétude à l'égard donc de ce conflit. La menace existentielle qui pèse sur l'Arménie, il l'a bien pris conscience parce qu'il a dénoncé, c'est le seul chef d'État, membre de l'OTAN, membre du Conseil permanent, membre permanent du Conseil de sécurité, qui dénonce, si vous voulez, cette politique pyromane d'embrasement via donc la venue de mercenaires par la Turquie en territoire azéri. Donc la France, elle est consciente, elle agit par sa parole, elle agit aussi par sa capacité à être une vraie médiatrice. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la France aussi a des intérêts en Azerbaïdjan. Il y a une amitié avec l'Arménie, bien entendu, la diaspora, elle compte, mais les échanges franco-arméniens sont insignifiants. Le commerce bilatéral, c'est même pas 80 millions de dollars par an, c'est ça, c'est ce qui est une goutte d'eau. Alors à l'inverse, la France, sous la présidence de François Hollande, vendait du matériel non létal, des satellites d'observation militaire à l'Azerbaïdjan. La France, comme vous l'avez dit aussi, a des intérêts culturels, politiques. Bon, vous avez des figures de la vie politique française qui sont très très marquées par leur militantisme, même pro-azéri. Hein. Je vous parlais de Rachida Dati. Donc, si vous voulez, je crois que Paris a vraiment une fenêtre de tir, même si le Caucase n'est pas sa zone d'influence. Mais je ne crois pas que les Russes laisseront les Français, même les Allemands, laisseront les Français agir de façon, on va dire, avec des marges de manœuvre conséquentes dans la région. Toujours est-il aussi que le groupe de Minsk de l'OSCE a montré son impuissance et ses limites. Donc là, on est vraiment à un moment charnière, un moment diplomatique charnière, où le multilatéralisme est profondément fragilisé, où se pose, si vous voulez, la question d'un nouveau, un nouveau cadre de discussion, un nouveau cadre de négociation. Et j'espère de tout cœur que la France pourra jouer un rôle dans cette histoire, parce qu'elle défend cette valeur, ces valeurs de multilatéralisme.
Bien, nous suivrons les déroulements de ces opérations dans les semaines à venir. Merci à tous les trois, Anna Pouvreau, Aurélien Denisot et Tigrane Gavian d'avoir expliqué les tenants et aboutissants de ce conflit. J'espère que cette émission vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans une crise qui est extrêmement complexe. N'hésitez pas à partager cette émission, à les faire connaître aussi autour de vous si vous les appréciez, afin de participer au développement de ces émissions. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec notre numéro de ce mois-ci qui est consacré à la géopolitique de l'alimentation, et puis un hors-série qui est consacré au programme du baccalauréat, mais avec des thèmes évoqués qui plairont à tout le monde, y compris si vous n'êtes pas en terminale et que vous ne passez pas le bac. Vous retrouvez beaucoup d'éléments de géopolitique qui pourront également vous plaire. Donc à retrouver en kiosque, Conflit, bien évidemment, et puis notre site internet et de nouvelles émissions Fenêtres sur le monde à retrouver prochainement. Merci pour votre fidélité.